Aujourd'hui, plus que jamais, il y a dans ce monde une confrontation de puissance, Dieu, ses anges et nous, contre Satan, ses anges et ses serviteurs. Et l'adversaire, vous avez remarqué, il redouble d'efforts pour détruire le monde, pour détruire les hommes, pour détruire l'Église. Et bien, pour vaincre dans ces temps, le Seigneur, il a besoin d'un peuple fort, un peuple qui remplit certaines conditions pour que l'amour, mais aussi la puissance de Dieu, puisse se manifester à travers lui, je dirais, dans toute sa mesure. Vous n'avez pas ce sentiment, des fois, d'être utilisé, mais pas à pleine mesure. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas béni dans la pleine mesure, et puis vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à mettre vos dons en action dans la pleine mesure. Moi, je suis quelqu'un de frustré, vous voulez savoir? Je suis un pasteur frustré. Pourtant, avec mon épouse, on a vécu de belles choses et on continue à vivre de belles choses, alléluia. Mais quand je vois tout ce que j'ai encore envie de faire, je suis frustré. Quand je vois quelqu'un de guéri et que j'en vois 10 repartir malade dans la maison, je reste frustré. Mais ça, c'est une bonne frustration. Parce qu'elle nous pousse à chercher plus de la présence de Dieu pour être plus utilisé par lui. Or Dieu appelle un peuple qui a un esprit combatif. Bref, un peuple qui soit une armée dans ces temps. Bon, il nous faut être lucides. Toute l'Église ne comprend pas le plan de Dieu. Est-ce que le Seigneur attend d'elle? Tous les chrétiens ne sont pas ouverts à l'action de l'Esprit. Je veux dire que même beaucoup y sont bien fermés. Et ce n'est pas une histoire nouvelle, parce que la plupart des revivalistes se sont heurtés en général à l'opposition de plusieurs de ceux qui étaient issus de réveils précédents. Et on se rend compte que souvent ceux avec qui nous devrions être les plus proches, à cause de la similitude des points de doctrine auxquels nous croyons, sont souvent ceux qui s'opposent avec le plus de virulence à nous. Et de ce fait, on se rend compte que beaucoup ne peuvent entrer dans l'œuvre que le Seigneur accomplit, et ne peuvent être utilisés comme Dieu le voudrait. Moi, je sais que dans ces temps, j'ai pas envie d'être disqualifié par Dieu. Je veux être au milieu de ce que Dieu va faire. Et Dieu fait continuellement des choses nouvelles. Vous voulez savoir? Dieu, il aime pas refaire exactement les mêmes choses. Il fait régulièrement des choses nouvelles. Si on se met à l'écoute de son esprit, on va l'entendre nous diriger sur comment rentrer dans ces choses nouvelles. Ça intéresse quelqu'un de rentrer dans les choses nouvelles? Alors le Seigneur, dans ces temps, il se choisit, si je peux dire, un peuple du milieu de son peuple pour former cette armée des derniers temps qui se lève pour manifester la gloire de Dieu. Le psaume 102:19 nous dit que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Ésaïe 43:21 nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Régulièrement, Dieu se forme un peuple pour accomplir sa volonté dans ce monde. Et il ne le choisit pas, ce peuple, en fonction de l'Église à laquelle il appartient, en fonction de la dénomination à laquelle il appartient. Dieu regarde au cœur. Et dans toute dénomination, dans toute Église, il y a des gens que Dieu se choisit pour former son peuple. C'est pourquoi notre message ne doit pas être « sortez des Églises ». Alléluia. Ça, c'est important à le dire. Notre message, c'est « sortez des rangs » pour entrer dans ce que Dieu il a pour vous. Un homme de Dieu, Tommy Hick, il a reçu dans une vision qu'il a eue sur les derniers temps, il a eu cette vision, il a vu que beaucoup de chrétiens refusaient l'onction que le Seigneur voulait leur transmettre. Et il précise qu'il a vu des gens dont il semblait évident au départ qu'ils ne la refuseraient pas. On retrouve dans la vision de Tommy Hick la notion d'un peuple en parallèle avec la notion d'une armée. Et le Seigneur lui dit dans cette vision, qui a entendu parler de cette vision de Tommy Hick? Le Seigneur lui dit, dans la fin des temps, mon peuple ira de l'avant, revêtu de mon onction, comme une armée qui se répandra sur la face de la terre. C'est vrai que depuis plusieurs années, le Seigneur il parle à mon cœur dans ce sens, que se lèvent des hommes, des femmes, pour former une armée puissante à sa gloire. Je sais qu'il parle à d'autres personnes dans ce sens, dans tous les milieux. Il y a une urgence quelque part qui est sur notre cœur pour passer à autre chose. Ça a été le thème du séminaire à Nice, passer à autre chose. Et je crois que plusieurs des personnes qui ont assisté à ce séminaire ont commencé à passer le Jourdain. mettre leurs pieds dans une nouvelle dimension. Le Seigneur veut choisir un peuple composé de personnes qui réhabiliteront, entre autres, l'image de Christ, de l'Église, du chrétien, et seront utilisées par lui pour faire une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Un peuple qui marche dans l'amour. La parole de Dieu est remplie de prophéties concernant les temps de la fin, où elle fait allusion à une fantastique armée qui doit se lever. Joël nous donne plusieurs précisions concernant cette armée. Dans le chapitre 2, il fait allusion à la fois à cette armée, à l'armée des anges qui se trouve derrière elle. Et il dit, voici, c'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. On dirait un peuple puissant rangé en bataille. Il est précisé que devant ces hommes, ces femmes qui composent cette armée, les peuples tremblent. Ils courent comme des héros. Chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route, nul ne bouscule son voisin. Ça, j'aime bien. Tiens, nul ne bouscule son voisin. C'est pas mal, ça. On a besoin de ça. Chacun suit sa voie. Tu restes dans ton appel, dans ta destinée, dans ton ministère. Essaye de pas sortir de ta sphère d'autorité, parce que chaque fois que tu sors de ta sphère d'autorité, tu rentres dans la sphère d'autorité de quelqu'un d'autre. Et ces gens, ils y vont pas à la bataille tranquillement en disant « j'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui ait pris ma place ». Ils se ruent, il nous est dit, au travers des projectiles, sans rompre les rangs. Waouh ! Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, dont il est fait allusion à la fin des temps. Et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée. Donc l'armée que Dieu se forme va sérieusement changer et chambouler le cours des choses dans notre monde. Les révélations et visions reçues par plusieurs hommes et femmes de Dieu vont également dans le même sens. Le réveil qui vient est caractérisé par une grande armée qui se lève au service et sous la conduite du Saint-Esprit. L'homme de Dieu qui s'appelle Ron White a reçu lui aussi une vision dans laquelle il lui était dit, en ce jour va se lever l'armée de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dieu est un Dieu qui parle. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui parle? Il nous parle par des songes, il nous parle par des visions. À l'époque des Actes, il voyait des anges régulièrement. Si Dieu est vivant, on a besoin de voir qu'il est vivant de manière bien concrète. Et si nous ne marchons pas par la vue, eh bien, en libérant notre foi, on finit par voir des choses fantastiques. La foi, ce n'est pas attendre, ce n'est pas croire simplement ce que dit la parole de Dieu sans s'attendre à ce que se manifeste. C'est croire quand on ne voit rien, mais par la persévérance, voir des choses fantastiques. En ce jour va se lever l'armée de Dieu, il lui a été dit, et cette armée ne pourra être dénombrée. Mes troupes de la terre et mes troupes des cieux seront ensemble une si grande multitude. Une autre femme de Dieu, Marie Baxter, le Seigneur lui a dit, n'aie crainte, je suis en train de préparer une armée sainte, ils feront de grands exploits en mon nom et détruiront les lieux élevés. C'est une armée d'hommes et de femmes, de garçons et de filles. On parlera des jeunes demain. Dieu veut utiliser tous ceux qui sont disponibles. C'est une armée d'hommes du monde du travail, de femmes au foyer, de célibataires, d'enfants qui vont encore à l'école. Elle est composée de gens de tous les jours. Ils vont commencer, il a été dit, à accomplir les prophéties et faire la volonté de Dieu. Le Seigneur lui dit, je marcherai avec eux, je parlerai avec eux et travaillerai avec eux. Ce sont ceux qui se sont tournés vers moi avec tout leur cœur, leur âme et leur force. Cette armée, lui a-t-il été dit, c'est l'armée dont a parlé le prophète Daniel. Elle va se lever sur la terre et accomplir de grandes choses. Ils seront appelés l'armée de l'Éternel. Ils vont gagner un grand nombre de personnes à Jésus-Christ avant que les temps deviennent très très durs. En Ésaïe 43, versets 16 et 17, il nous est dit, « Ainsi parle l'Éternel qui trace une route dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers. Le Seigneur ajoute, « Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Ce verset vient de ce passage de l'Écriture. Et d'après ce verset, la levée de ce peuple est liée à du nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est nouvelle? Parce qu'elle exprime un état d'esprit, un fonctionnement, une manière différente de faire. Une manière différente à celle à laquelle on est habitué, parce que sinon on ne dit pas que c'est nouveau. On dit, ben, c'est la même chose que, c'est presque pareil que. Mais on dit que c'est nouveau quand vraiment, ça marque une différence avec ce à quoi on est habitué. Et Dieu, il veut faire des choses nouvelles. Vous en avez pas marre de certaines choses? Moi, il y a des choses, j'en ai marre. Je ne peux plus me supporter. Amen? J'ai vraiment envie de passer à autre chose, de rentrer dans les choses nouvelles que Dieu a à me proposer. Si on constate que c'est nouveau, ben, c'est qu'on constate que c'est différent. Cette armée, ce peuple que le Seigneur se lève, se caractérise par un renouveau dans la manière de vivre sa foi. Ce peuple se caractérise par plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Une disposition de cœur. Une consécration, une disponibilité, une écoute de Dieu. Le psaume 110:3 dit « Ton peuple est plein de dévouement » ou selon les traductions « d'ardeur » au jour où tu rassembles ton armée. Le jour où le Seigneur rassemble son armée, il le fait avec des gens qui sont pleins d'ardeur, qui sont prêts à payer le prix, qui n'ont plus rien à perdre. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai, là on est là, il y a de la lumière, il y a un micro, il y a des chants, mais demain le Seigneur me dit « casse ta guitare, parle plus jamais dans un micro, disparais dans l'ombre et serre à un endroit où personne n'entendra parler de toi. » D'accord Seigneur, le reste ne m'intéresse plus. Amen. Vous savez, Dieu il demande à certaines personnes à être dans l'ombre pour le servir, d'autres personnes à être dans la lumière. Parfois ça coûte à ceux qui sont dans la lumière, amen. Beaucoup de gens qui sont dans la lumière, s'ils avaient choisi eux-mêmes, ils seraient dans l'ombre. Et beaucoup de gens qui voulaient être dans la lumière, Dieu les appelait à servir dans l'ombre. Alors ce qui importe, c'est pas être dans la lumière, c'est pas être dans l'ombre, c'est être là où Dieu nous a appelés à être. Parce que Dieu ne nous juge pas en fonction du projecteur. Dieu, il nous juge en fonction de la fidélité que nous manifestons dans ce qu'il nous a demandé de faire. Dieu ne nous juge pas en fonction du titre. Il nous juge en fonction de notre fidélité à accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et les titres correspondent à des places différentes. C'est pas parce qu'une personne a reçu un ministère d'apôtre ou de prophète qu'elle est plus grande que celle qui balaie l'église. Et Dieu va juger chacun en fonction de la fidélité qu'il va manifester dans ce qu'il fait. Il vaut mieux bien balayer l'église, on sera plus rémunéré que celui qui accomplit mal un ministère d'apôtre. Donc il est important de ne pas se comparer ou de tenir certains raisonnements. Quand je serai grand, je serai apôtre. Non. Ce qui est important, c'est que tu deviennes qui Dieu il a prévu que tu sois dans son plan. Et que tu te trouves là où Dieu a prévu que tu sois. Dans l'église dans laquelle Dieu t'appelle à être. Le plus mauvais calcul, le plus mauvais calcul pour un pasteur, c'est d'essayer d'avoir le maximum de personnes dans son église. Parce qu'il risque d'user de manipulation, de séduction pour amener les gens à être dans son assemblée, alors qu'ils sont peut-être pas appelés par Dieu à s'y trouver. Amen. Moi, je dis régulièrement aux gens avec qui nous travaillons, si vous sentez un jour, c'est plus l'appel de Dieu que vous soyez avec nous, allez-y, quittez et on reste amis. J'ai l'impression parfois qu'on ne peut pas quitter un lieu sans s'entretuer. Mais ce que je dois désirer, si je suis un serviteur de Dieu qui recherche l'intérêt des autres, c'est qu'ils soient là où Dieu les veut, pas là où je les veux. Amen. Et dans ces temps, Dieu veut un peuple qui ne cherche pas ses intérêts. Enfin, qui cherche ses intérêts à lui. Les intérêts de Dieu. Et pour chercher les intérêts de Dieu, en général, il faut se détourner de nos propres intérêts. Vous avez remarqué? Mais qu'est-ce qu'on se sent bien après? C'est le principe qu'a exposé Jésus, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on a donné, dirigé par Dieu, hein? La joie qu'on a dans le cœur, tout ce qu'on aurait pu nous donner, ne nous aurait pas apporté cette joie. Et plus on est désintéressé avec Dieu, plus il va nous bénir. Donc on est toujours gagnant avec le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le jeu qui perd gagne. Vous connaissez ce jeu? Dans ce monde, si tu perds, tu perds. En plus, on s'essuie sur toi quand tu es à terre. On t'enfonce. Mais avec Dieu, si tu perds, tu gagnes. Alléluia. Donc il faut être prêt à perdre ce que Dieu nous demande de perdre. Celui qui perdra sa vie, la retrouvera. N'est-ce pas? Ce qui caractérise ces personnes qui vont former l'armée du Seigneur, c'est que ces gens s'aiment les uns les autres. Tommy a vu dans la vision que ce qui caractérisait ce peuple, il précise, plus que les prodiges, merci Seigneur pour les prodiges, mais il dit, plus que les prodiges, c'était l'amour qui les liait. Et quand un semblait tomber, il y avait toujours un autre pour le relever. C'est bien de savoir qu'on est avec des gens, que si on se casse la figure, ils vont nous relever au lieu de nous marcher dessus, n'est-ce pas? C'est pourquoi, moi j'aime pas critiquer les serviteurs de Dieu qui tombent. Vous savez, ces dernières années, il y a des gens qui sont tombés dans différents milieux, et c'est vrai, ils n'auraient pas dû, mais c'est un peu facile de les critiquer. Vous savez, beaucoup de gens sont montés plus haut, et parce qu'ils sont montés plus haut, ils se sont cassés la figure. Mais souvent, les gens qui les critiquent n'ont pas pris les risques qu'eux, ils ont pris. Parfois, on est là sur notre chaise longue dans le jardin, sur la pelouse, là, et on critique le gars qui est monté sur le toit et qui vient de se casser la figure. Mais nous, on risque pas de tomber de bien haut. Donc, pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut d'abord avoir fait les pas de foi qu'il a fait. Avant de critiquer Pierre parce qu'il a fini par couler, lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, il faut déjà faire les quelques pas qu'il a fait sur l'eau. Quand un semblait tomber, il y avait toujours un autre pour le relever. Moi, j'aime bien ça. Ces gens viennent aussi de toutes les couches de la société. Il y a une époque, on avait l'impression que si on devait servir Dieu, il fallait être pasteur ou évangéliste. Mais non! Chacun de nous est appelé à servir Dieu à plein temps, là où il se trouve. Et je le dis souvent, certains sont appelés à vendre des merguez sur le cours Lafayette. Mais si c'est leur appel, il est glorieux. Et Dieu mettra sur ton chemin des personnes que tu pourras bénir comme tu ne pourrais jamais les bénir sur une estrade en tenant un micro. Amen. Et beaucoup de gens, peut-être qui tiennent des micros, devraient vendre des merguez. Le nombre de serviteurs de Dieu que j'ai rencontrés, qui se sont retrouvés là, et qui m'ont dit, mais moi, c'est pas vraiment ce que je voulais. J'aurais été plus heureux en faisant telle et telle autre chose, mais la seule conception de servir Dieu, c'était prêcher, c'était non. Servir Dieu, c'est rentrer dans notre destinée. Et la destinée de chacun de nous est différente. Et Dieu veut envahir le monde dans toutes les couches de la société dont il a prévu de placer des hommes et des femmes à tous les niveaux. Donc c'est glorieux de servir Dieu à partir de l'instant où on est à la bonne place. Donc ces gens viennent de toutes les couches de la société. Dieu ne fait point de favoritisme, il appelle ses enfants à le servir, quel que soit leur âge, leur instruction, leur couleur de peau, leur richesse, leur travail. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. C'est pourquoi ces gens envahissent toutes les couches de la société. Un autre point qui caractérise ce peuple qui se lève, c'est que les hommes comme les femmes sont appelés à servir. Et c'est vrai que le jour de la Pentecôte, il a été précisé que Dieu répandait son esprit sur ses serviteurs, mais aussi sur ses servantes. Dès la résurrection de Jésus, des femmes se sont retrouvées au premier plan. Elles doivent se lever dans ces temps. On parlera plus de cela dimanche matin. Elles doivent se lever dans ces temps, quitte à braver les légalistes de tout poil. Les jeunes gens ont une grande part à jouer. Il Les enfants, à une époque, s'étaient rendus à une convention où ils avaient expérimenté l'onction du Saint-Esprit à travers des pleurs, des rires. Ils sont revenus plus encouragés que jamais. Et beaucoup de jeunes, à l'époque, ont participé à répandre son onction au milieu de notre assemblée. On parlera plus en détail de cela demain après-midi. On permettra à des jeunes de prier pour les gens. Rick Joyner dit qu'une des plus extraordinaires caractéristiques de la moisson sera la jeunesse de nombreux ouvriers. Des adolescents formeront la colonne vertébrale du réveil, dit. Et certains préados seront parmi les plus grands évangélistes. Ouais, ça c'est nouveau. Amen. Il dit, pendant la moisson, le monde comprendra ce passage de l'Écriture. D'Ésaïe 8, 18. Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés, nous servirons de signes et de présages en Israël. Moi, je m'attends à quelque chose d'important demain après-midi. D'ailleurs, dans les actes, il était dit, les serviteurs, les servantes, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Ça devrait devenir normal pour nous d'avoir un des enfants qui vient et qui a dit, papa, je viens de voir un ange dans la chambre. Oh, c'est encore un? C'est vrai, moi, c'est ça que je veux vivre. C'est pas le contraire. Waouh, on a eu une guérison. Alors, on s'appuie sur ce témoignage pendant 6 mois. Pendant ce temps, il y en a 50 qui tombent malades dans l'église. Mais non. Je crois que Dieu veut nous amener à un stade où le miracle, c'est quelque chose de journalier. Le miracle devient un mode de vie. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai conçu ma vie, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Et les projets que j'ai pour les temps à venir, où je sais que le miracle, il va être là, omniprésent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combats, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de moments pénibles, mais ils seront surmontés les doigts dans le nez. Amen. Ça rime. Lors du réveil, un réveil à Minneapolis, le Saint-Esprit descendit sur des enfants de 10 ans qui recevaient des paroles de connaissance et imposaient les mains aux malades. S'en suivaient des guérisons spectaculaires. Alors, ce peuple se caractérise aussi parce que ces gens qui le composent ont rejeté l'esprit sectaire. Ils jouent plus le jeu des guéguerres, d'églises et de dénominations. Tommy qui a vu qu'il n'y avait pas une église ou une dénomination précise, mais des gens qui aimaient et servaient Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Ah. Vous voyez, la parole de Dieu amène la lumière. Vous savez, cette notion si répandue dans certains milieux. Et une notion très répandue dans certains milieux. Résumé par, si vous n'êtes pas dans notre église, dénomination, vous n'êtes pas considéré, si vous n'y restez pas, vous êtes excommunié. C'est un principe sectaire qui dénote que la notion d'appartenance à un groupe a pris le pas sur la notion d'appartenance à Christ. On n'appartient pas à un groupe, avant tout. On appartient à Christ. Quelqu'un me disait l'autre jour, nous n'avons plus de relation avec un ami d'enfance depuis que nous sommes dans des églises différentes. Comme c'est triste. Non, je crois que nous n'avons pas rejeté des frères sous prétexte qu'ils ne sont plus pas avec nous. Faut pas le prendre comme une agression personnelle. On se sent forcé de couper les ponts. On prend tout personnellement, vous savez. Et nous n'avons pas forcé les gens à venir comme à rester au milieu de nous. Nous devons au contraire désirer qu'ils soient là où Dieu les veut, là où ils se sentent à l'aise. Ce peuple, bien ceux qui le composent, ne correspondent pas toujours aux critères classiques. Et il est temps de ne plus juger sur les apparences. Je crois que ce qui caractérisait Jésus, c'est qu'il ne jugeait pas sur l'apparence. Amen. L'apôtre Paul nous encourage à faire de même, ne jugez pas sur l'apparence. Parfois on a affaire à des gens, ils ont l'air supra-spirituels. Et quand on gratte derrière, qu'est-ce qu'on trouve comme péché, comme hypocrisie? Puis il y en a d'autres, ils payent pas de mine, hein, mais on n'a pas su reconnaître les vaillants guerriers que Dieu mettait sur notre chemin. Alléluia. Derrière, il y a des cœurs qui battent et des cœurs qui sont agréables à Dieu. Mais si on se fie à l'apparence, on va passer à côté de ces choses. Et Dieu veut nous donner son discernement. C'est pourquoi les choix que Dieu fait, la sélection que Dieu fait, il ne la fait pas en fonction de la couleur de cheveux que tu as. Il la fait en fonction du cœur. Dieu regarde au cœur. Rick Joyner précise que certains des ministères qui apporteront le plus de vie à l'Église des derniers temps seront des gens même qui ont commis de grosses erreurs dans le passé. Parce qu'étant brisés, ils sont devenus plus malléables entre les mains de Dieu. Amen. Vous savez, on dit que le capitaine du Titanic, bien, il n'a pas écouté les conseils qu'on lui a donnés. Il a continué à faire avancer le bateau à toute allure, malgré les icebergs, parce qu'il n'avait jamais eu d'échec, ce gars. En n'ayant jamais eu d'échec, il était plein de lui-même, il était rempli d'une fausse assurance, il n'écoutait plus personne. Mais il est bon qu'on ait eu des échecs. Amen. Les échecs, ça fait mûrir. Dans la mesure où on en tire enseignement, pour être assez humble, pour écouter la voix de Dieu à travers les autres. Amen. Merci, c'est l'écho. Ils manifesteront la puissance de Dieu aussi. Parce que c'est bien un évangile rempli de l'amour, mais l'amour, ça doit se manifester d'une manière concrète. Le gars qui est aveugle, c'est bien beau que tu lui dises « Dieu t'aime » et que tu l'embrasses. Bien sûr, ça lui fait du bien. Mais il a envie de retrouver la vue aussi. Hein, il peut pas vivre sur le témoignage du gars qui a été guéri il y a 10 ans. Il nous faut l'onction fraîche du jour. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut. Le mot salut en grec signifie autant être sauvé, qu'être guéri, qu'être délivré, qu'être restauré dans tous les domaines de sa vie. Donc, et justement, il n'a pas honte de l'évangile, il dit parce que c'est une puissance. Parfois, on a honte de l'évangile. Parce qu'on prie pour les gens, il ne se passe rien. On dit à nos enfants, Jésus fait ceci, Jésus fait cela, et ils ne voient rien. On dit à l'église, on leur dit que l'église c'est la grande famille de Jésus, où les gens s'aiment, et il vient, il voit les mêmes problèmes que dans le monde. Ils entendent les mêmes bruits que dans le monde. C'est sûr que on a honte des fois de l'évangile. L'apôtre Paul, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, justement parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce qu'il la voyait pas, cette puissance, se manifester une fois tous les 15 jours. Il est temps de voir cette réalité de la puissance de Dieu dans la vie de plus de chrétiens. Moi, je suis partant. Et le peuple de Dieu est appelé par Jésus lui-même à manifester le miracle, puisque Jésus a dit, et celui qui croit en moi, il fera même de plus grandes choses, parce que je m'en vais au Père. Et voici les miracles qui accompagneront, non pas les pasteurs, les évangélistes seulement, mais ceux qui auront cru. Qui a cru ici? Voilà. Est-ce que vous êtes candidat pour le miracle? Voilà. Alors, ressortez de ce lieu insatisfait. Ok? Afin que cette insatisfaction vous pousse à chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il déverse en vous plus de son onction. Parce que c'est l'onction qui brise les joues. Ces gens se caractérisent parce qu'ils sont complémentaires. Dans Joël, nous l'avons vu, il est dit, nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa voie. Cette armée est composée de gens qui savent à quoi Dieu les appelle et qui marchent dans l'unité. Nous avons hérité en France particulièrement de cet esprit individualiste qui déjà poussait les Gaulois à aller attaquer les Romains tribu après tribu au lieu de s'unir pour être plus fort. Alors chaque tribu se faisait défaire, vous savez? Alors qu'il suffisait qu'ils s'unissent. Il y a encore du Gaulois chez nous, hein? Esprit de Gaulois, sort! Et le désir orgueilleux d'être l'instrument du réveil, le ministère, l'église qui amène le réveil, eh bien, pousse à vouloir se battre seul et pousse à la recherche d'une vaine gloire. C'est fou à travers nos voyages le nombre de gens qu'on rencontre qui ont reçu que le réveil y viendrait par eux. Ou il va venir de tous les endroits à la fois, ou il y en a qui se font du cinéma. C'est bon pour l'ego. C'est nous, c'est notre église qui va être utilisée pour le réveil. Tant de gens ont soi-disant reçu de Dieu que le réveil se répandrait à partir de leur église et de leur région. Aucun de nous n'a tous les dons et il nous faut reconnaître que nous avons... Ah, ça fait mal des fois à reconnaître, hein. Moi, j'aime pas des fois avoir besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Oui. Nous devons, si nous voulons être efficaces, apprendre à travailler en équipe avec d'autres ministères. Alors, toute alliance n'est pas bonne. Moi, je crois pas qu'il faut faire alliance avec tous les gens qui crient Alléluia. Moi, je crois qu'il faut reconnaître les gens de sa tribu dans le monde spirituel. Toute alliance n'est pas bonne, mais nous devons faire des alliances avec d'autres églises, ministères, frères et sœurs, pour mettre nos dons au service les uns des autres. Est-ce que je peux avoir un petit amen? Essayez le gros maintenant. Voilà. Alors, quand vous voulez dire amen, allez-y avec le gros, d'accord? Rick Joyner précise encore que cette armée qui est en train de se former sera plus grande que tout ce que l'on peut imaginer ou rêver. Waouh! En d'autres termes, nous n'avons pas à faire de complexe par rapport à la première église. Parce que Dieu va faire des choses tellement fantastiques que ça n'aura rien à envier à la première église. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, la première église, ça s'est surtout concentré à Jérusalem et dans le monde grec. Mais le réveil là dont il est question, il va toucher toutes les nations. Parce que c'est le commandement de Jésus, allez par toutes les nations. Lorsque Jésus va venir chercher son église, c'est une église qui est prête, donc c'est une église qui est glorieuse, donc c'est une église qui accomplit son mandat, sinon il ne vient pas la chercher. Donc, comme je le dis souvent, si vous ne croyez pas à l'église, je suis désolé, Jésus il y croit toujours. Donc si lui il croit toujours, qui suis-je, qui sommes-nous pour ne plus y croire? Et puisqu'il a toujours prévu de venir la chercher, une part, au moins, va donc devenir glorieuse. Et ce qui est important, c'est de faire partie de cette part. Et il précise, Rick Joyner, que cette armée qui est en train de se former sera plus grande que tout ce que l'on peut imaginer ou rêver. Elle ne cherchera pas à se glorifier elle-même, mais elle magnifiera le roi qui l'a conduit. C'est une armée aussi qui est composée d'un peuple de louanges. La louange nous est présentée en différents endroits de la Bible comme étant une véritable arme pour lier, vaincre les puissances de ténèbres. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à la louange. Et nous ne voulons pas que ce soit la louange avec un groupe qui est sur une estrade et des gens qui sont là spectateurs. C'est pas un concert. On veut rentrer ensemble dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une promesse lorsque nous sommes dans l'unité, dans la louange, c'est qu'il y a une autorité dans cette louange qui se libère et des puissances de ténèbres sont liées. C'est pourquoi dans les temps qu'on va avoir pour terminer cette soirée tout à l'heure, rentrez à fond dans la louange. Alléluia. Ne rentrez pas à moitié. Rentrez à fond. Parfois on dit oui, mais je suis pas en forme aujourd'hui. Eh bien, tu as encore plus besoin de le louer que quand tu es en forme. La Bible dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est-à-dire qu'à l'instant où je m'écris loué soit l'Éternel, d'après ce verset, je suis entouré de tous mes ennemis. Donc je n'ai à vue humaine aucune raison de m'écrier loué soit l'Éternel. J'ai plutôt envie de m'écrier à ma mamie, pourquoi tu m'as laissé tomber Seigneur? Mais c'est pas ça qui va me délivrer. Donc vous voyez, cette attitude de louange, selon ce verset, c'est une attitude de foi, c'est une démarche de foi, parce qu'humainement parlant, les ennemis sont là autour. Mais parce que je loue Dieu, malgré cela, en conséquence de ma louange inconditionnelle, mes ennemis s'enfuient. Vous comprenez? Donc le raisonnement là du chrétien moyen, « Oh, quand j'irai mieux ?» Ben non, justement, tu n'iras pas mieux. C'est même un raisonnement pour donner. Ah, j'ai pas beaucoup, donc je peux pas donner en ce moment. Mais justement, donne une part du peu que tu as, parce que Dieu va te le multiplier. Tu as encore plus besoin de donner que ceux qui ont. Ce sont simplement les lois du royaume de Dieu. Deux Chroniques 20 nous relate le combat de Josaphat contre les Moabites. Le verset 22 précise. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, et Julia à la guitare, Elisa, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Alors, à l'instant où les chants et les louanges ont commencé, dans l'unité, des anges se sont mis en action. Et c'est ce qu'il faut qu'on visualise dans ces moments où nous nous réunissons. Qu'on ne fasse pas les choses d'une manière mécanique, mais qu'on croit vraiment qu'il y a un travail spirituel qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces séminaires et qui souffrent. Quand ils rentrent à la maison, mais il y a des choses qui ne tournent pas obligatoirement comme elles devraient tourner. Mais on croit que Dieu peut se manifester pour faire en sorte que quand on rentre, des anges auront résolu beaucoup de nos problèmes. Amen. Donc c'est bien de venir et de s'oublier soi-même pendant un moment pour donner la première place à Dieu. Et bibliquement, hein, c'est pas du païen ce soir, c'est la Bible qui nous dit. Mais en retour, le Seigneur, il agit. Donc c'est bien de s'oublier pour donner la première place au Seigneur, afin que ses anges, entre autres, agissent à notre égard. Nous voulons faire partie de ce peuple, je crois, pour la plupart d'entre nous, ce peuple que Dieu se choisit du milieu de son peuple. Alors, eh bien, nous voulons nous tourner dans le vent de l'Esprit et nous engager dans cette armée, si ce n'est pas fait. Ézéchiel 37, 9, 10, je vous quitte avec ce verset. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, on pourrait dire sur ces chrétiens, parfois, et qu'ils revivent. Ézéchiel ajoute, je prophétisais, c'est-à-dire je déclarais des choses positives. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a béni, on a déclaré des choses positives. Ça peut s'appeler aussi prophétiser, bénir. Laisser sortir de sa bouche des paroles qui vont produire un résultat dans le sens de la bénédiction. Donc je prophétisais, dit Ézéchiel, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint sur eux. Ils reprirent vie et se mirent sur leurs pieds, et il ajoute, c'était une très très grande armée. Et là, cette prophétie concerne les temps dans lesquels nous vivons, vous et moi. Ça veut au départ, lorsque Ézéchiel y voit ce cimetière, cette vallée des ossements, le Seigneur il lui pose une question, dit prophète, est-ce que ces eaux ils vont revivre? Moi je me mets à sa place, il n'a pas voulu se mouiller le gars, il a dit, Seigneur c'est toi qui vois. Hein. Il devait penser humainement parlant, c'est mal parti. On est mal barré. Il a dit, Seigneur c'est toi qui sais. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est que nous on ne sait pas, mais lui il sait. Parce que lui il voit... d'une manière différente que nous. Il voit de beaucoup plus haut Dieu. Et nous, quand on voit des eaux desséchées, et qu'on a du mal à penser qu'il va peut-être sortir un réveil de là, on va du mal à avoir à penser qu'on va pouvoir se réconcilier avec un tel, que telle situation complexe va pouvoir se résoudre, Dieu, d'où il voit, lui, il rigole. Il voit pas la même chose que nous. Lui, il voit une armée. Et nous, on voit des eaux. Donc il est important d'échanger notre regard pour le regard de Dieu. Et il est important aussi d'échanger notre langage sur le langage de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a des choses à réformer au sein du corps de Christ, au sein de l'Église. Moi je supporte plus les gens qui passent leur temps à parler contre l'Église, parce que Jésus il aime son Église. Et puis c'est pas comme ça qu'on va l'aider à changer. Essayez de faire changer un gosse en lui reprochant toujours ce qu'il fait de travers. Vous n'allez pas l'aider à changer, vous allez lui permettre d'empirer au contraire. Alors moi j'ai envie d'être entouré de gens qui parlent positivement, alléluia, non pas selon l'esprit de ce monde, autosuggestion, il faut être positif, non, parce que bibliquement on est appelé à parler positivement sur les choses, pour briser l'esprit de l'adversaire qui veut tirer les choses vers le bas. D'ailleurs le terme exhorter signifie tirer vers le haut. La Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Alors on a besoin d'être entouré de gens qui nous tirent vers le haut. Si vous avez affaire à des chrétiens qui vous tirent vers le bas, je vais vous dire une chose. Il y a assez de raisons dans ce monde pour être tiré vers le bas, sans avoir encore à avoir affaire à des enfants de Dieu qui appuient encore. Ok? Donc, c'est pourquoi on a le droit de choisir les gens qui nous entourent. Et je vous conseille de vous en tirer, de vous entourer, pardon, de personnes qui vous tirent vers le haut. Et je vous conseille d'être un instrument de Dieu pour tirer les autres vers le haut. Et spécialement lorsqu'ils vont mal. Hein? Alléluia. Ça c'est prophétiser. Tu regardes les eaux et tu dis, ben, il y a une grande armée qui est en train de se lever. Tu vas trouver quelqu'un qui est complètement démoralisé, qui croit plus en lui, qui croit plus à son appel, et tu lui dis, tu sais que Dieu, il a des choses fantastiques pour toi. C'est merveilleux comment Dieu parle et comment il voit les choses. Quand il a envoyé l'ange trouver Gédéon, l'ange lui dit, salut à toi, vaillant héros. Moi, je me mets à la place de Gédéon. Il a dû se retourner en disant, à qui tu parles? Il n'avait pas l'impression qu'il était un vaillant héros. Quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace, je n'ai pas toujours l'impression que je suis un vaillant héros. Des fois, j'ai l'impression que je suis un vaillant zéro. Et ce qui m'importe, c'est pas ce que je vois moi, c'est ce que Dieu y voit. Même moi, je dois me regarder comme Dieu y me voit. Les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à se regarder comme Dieu les voit. Apprenez à vous regarder comme Dieu vous voit. Alléluia. Quand vous voyez un gros nez, Dieu y voit un caractère très intéressant de votre personnalité. Amen. Qui va utiliser à sa gloire. Amen. Et il a déjà prévu quelqu'un qui va vous aimer comme ça. C'est ça qui est merveilleux. Ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Là, vous allez, plusieurs d'entre vous, faire cet exercice en sortant de là. Apprendre à vous regarder avec les yeux de Dieu. Et apprendre à regarder les autres aussi avec les yeux de Dieu. Et apprendre à parler le langage de Dieu. Dieu, il n'est pas défaitiste, hein. Il n'est pas dépressif, Dieu. Il va très bien. Lui, même quand tout est perdu, il voit encore la solution. D'ailleurs, regardez, certaines personnes sont venues trouver Jésus en leur disant, mon enfant est mort. Pour être trop tard, hein, c'est trop tard. Humainement parlant. Et Jésus, il est encore là en train de lui dire, ne crains pas. Vous imaginez s'il faut être gonflé? Ne crains pas. Le gars, il a dit, qu'est-ce qui me reste? Parce que Dieu est celui qui ressuscite les morts. Quand c'est trop tard pour nous, c'est pas trop tard pour lui. Est-ce qu'on peut s'engager dans cette armée? Engagez-vous, qu'il disait. Parfois, on s'engage dans des situations et dans des galères avec des gens, on regrette de s'être engagé, n'est-ce pas? Mais quand on donne sa vie à Dieu, c'est pas pour le regretter. Quand on décide de marcher à fond la caisse avec lui, croyez-moi, c'est passionnant. Avec mon épouse, notre vie, elle est passionnante, c'est une grande aventure. Et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Dieu, il a prévu que notre vie, ce soit une grande aventure. On n'a pas envié ce que les gens y vivent au cinéma, parce que Dieu, il a mieux pour nous. C'est comme ça que je conçois le christianisme. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains tous ensemble? Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Ta parole est annoncée, nous la recevons avec simplicité. Moi, je l'ai prêchée avec simplicité, je l'ai prêchée avec tel que